Radio Campus 106.6 FM, donc on est maintenant dans la séquence consacrée à l'émission Quoi de Neuf jusqu'à 18h, comme chaque mercredi, donc 16h30, 18h, l'émission Quoi de Neuf. Et la première partie de cette émission est consacrée au Festival Latitude Contemporaine, avec cette édition donc qui a démarré la semaine dernière. Alors, pour nous parler de cette édition, eh bien, j'ai invité Alice Gapay. Bonjour Alice. Et puis Noémie nous a rejoint aussi. Hein. Bonjour Noémie, rebonjour.
Bonjour.
Et puis Maria Carmelamini, donc la directrice du Festival Latitude Contemporaine et d'ailleurs de l'association Latitude Contemporaine.
Oui, bonjour.
Alors, donc Maria Carmelamini, on a eu l'occasion d'entendre une interview qu'on avait faite à l'issue de la conférence de presse que vous aviez donnée il y a un petit moment. Et là, on se retrouve après donc, l'ouverture du festival qui avait lieu la semaine dernière, mercredi. Et donc, Alice est allée voir quelques spectacles. On va en entendre des extraits et je vais lui laisser le soin de mener l'interview comme elle l'entend. Je suis à ses ordres, à la technique.
Bonjour Maria.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, je vais bien.
Bon, très bien. Alors voilà, moi j'avais quelques questions. Je suis allée voir les différents, enfin quelques spectacles, voilà, qu'il y avait, pas tout, heureusement.
Non, malheureusement.
Oui, enfin, j'ai pas eu le temps. Et puis du coup, j'ai eu quelques questions. Je me suis demandé d'abord, comment vous avez constitué le programme du festival ? Je ne sais pas, autour de quelles ressources, avec quels objectifs ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu ?
Déjà, monter une programmation, c'est comme un puzzle. Hein, et ce n'est pas si simple que ça. À la fois, il y a une ligne artistique. Je pense que vos auditeurs connaissent très bien la ligne artistique de Latitude maintenant, depuis que nous sommes partenaires depuis très longues années.
Ben, je crois que c'est 17, là.
Oui, il ne faut pas le dire, ça nous vieillit trop, René.
Bon, c'est moi, c'est mes 50 ans de radio que je fête cette année, alors. Non.
Et donc, mais toujours aussi jeune. Et donc, la ligne artistique, c'est vraiment essayer d'être le plus proche des problématiques contemporaines de la société, donc, ouais. Et avec des formes hybrides. Donc, que ça soit de la danse, du théâtre, de la musique, de la performance, ou toutes ces formes mélangées dans un même spectacle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes cassent les frontières entre les médiums artistiques. Et c'est vraiment à ces formes un peu hybrides que le festival est dédié. Et puis, donc c'est un travail de longue haleine, puisque je vois à peu près 200 à 250 spectacles par an. Ah oui. Donc c'est beaucoup. Et donc il faut tenir compte, évidemment, du territoire dans lequel on est, des différentes programmations des différents lieux. Et puis également, évidemment, du planning des artistes, leur disponibilité, la capacité technique et financière des structures, enfin de notre association et des structures qui nous accueillent. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un regroupement de choses, enfin, et de contraintes à laquelle il faut, avec lesquelles il faut travailler. Et en fait, souvent, ces contraintes ne sont pas des freins pour moi, sont vraiment des challenges. Et je prends le cas de l'ouverture du festival. On n'avait pas de lieu pour ouvrir le festival, ce qui est quand même surprenant. Oui, d'ouvrir un festival sans lieu. Et en fait, j'en ai fait un atout, en fait, de cette contrainte. Ouais. Et donc, on a ouvert dans un parking et c'était vraiment magnifique.
J'ai vu ça sur la story Instagram.
Tout à fait. Donc voilà, les discours des élus ont eu lieu dans les parkings, dans le parking.
C'est atypique. Voilà.
Et en fait, c'était très très bien. Et donc voilà, j'essaye de vraiment de travailler dans ce sens-là et de rester face aux contraintes, de rester positive et de rester constructive en fait. Et en fait, on s'en sort toujours très bien quand on fait ça. Je le dis aussi pour les auditeurs, il ne faut jamais être négatif en fait.
Ouais. Et du coup, par rapport aux artistes, est-ce que vous avez des critères peut-être de sélection? Qu'est-ce qui vous tape à l'œil quand vous voyez ces 200 spectacles? Voilà.
Alors c'est pas le mot de tape à l'œil n'est pas vraiment peut-être le plus adapté. Donc en fait, c'est lorsque je sens chez l'artiste qu'il y a quelque chose d'authentique déjà. Enfin, ça, c'est vraiment la première chose qui m'intéresse chez un artiste, c'est de voir à quel point ce qu'il est en train de fabriquer, il y a une certaine sincérité avec et une authenticité dans son geste. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. Et puis, évidemment, que son travail colle à l'identité artistique du festival, c'est-à-dire que cet artiste soit dans une écriture hybride et extrêmement contemporaine, dans le sens pas abstrait du terme, dans le sens très concret, c'est-à-dire des choses d'aujourd'hui. Et, oui. Et puis, évidemment, il y a une ligne très politique aussi, mm-hmm. Des problématiques de société, oui. Géopolitiques.
On peut le voir avec Vera Cruz, par exemple, qu'on écoutera tout à l'heure.
Absolument. Et oui. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi, mm-hmm. en tant que programmatrice, de trouver des formes qui, justement, vont parler de... et nous ouvrir aussi, nous, en tant que spectateurs, l'esprit sur des sujets peut-être qu'on n'a pas tout à fait conscience, dont on n'a pas tout à fait conscience. Et donc, voilà, c'est un peu l'objectif que je me donne quand je programme.
Très bien. Alors justement, on a parlé de Vera Cruz, c'est un spectacle qui a eu lieu hier.
Qui aura lieu encore ce soir.
Également ce soir.
Au Théâtre Massenet, oui.
Voilà, qui aborde des problèmes géopolitiques à Vera Cruz, donc au Mexique. On vous laisse écouter le reportage.
Del periódico digital La Silla Rota, del 8 de diciembre del 2015, Veracruz, Veracruz. Eran cerca de las 7 de la noche cuando los Sánchez salieron a tomar el fresco en su rancho, ubicado en el ejido de Palmillas, a unos 500 metros de la carretera Córdoba-Veracruz.
Donc les processus en fait sont longs, ils ne sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain, donc ils ne sont pas certains qu'avec une nouvelle élection, quelque chose change. En fait c'est quelque chose de très profond et ça a quelque chose à voir avec le pays d'à côté, les États-Unis. Comment elle surmonte cela? Elle vit loin de cet endroit-là et elle essaie de vivre en s'éloignant de cet état de violence.
Je disais que je suis colombienne et donc du coup je me sentais très identifiée avec la pièce par rapport à l'histoire de son pays et l'histoire de mon pays aussi, qui se ressemble beaucoup, pas seulement maintenant avec tout le conflit politique qu'on vit, mais aussi depuis que les Espagnols ils sont arrivés en Colombie et tout ça. Et donc je disais, moi aussi je fais du théâtre qui ressemble un peu à ce qu'elle fait. Et je lui posais la question par rapport à comment elle a fait, comment la pièce elle est reçue à Veracruz. Parce que nous, on est en train de découvrir tout ce qu'elle dit, chaque mot, chaque chose, on le découvre à côté d'elle. Mais à Veracruz ou même au Mexique, ils vont déjà comprendre ou ils vont déjà associer les choses. Et ça se trouve, peut-être, ils vont dire « c'était pas comme ça » ou « oui ». Ou... Donc c'est ça ma question que j'ai posée.
No la he presentado en Veracruz.
Donc en fait, le théâtre, le poids du théâtre est assez insignifiant au Mexique, donc
je
pense qu'il n'y avait pas trop de danger, mais quand même au début, elle a quand même eu peur, elle s'est sentie en danger. Donc les choses ont un peu changé, elle a présenté sa pièce à Mexico, dans la ville de Mexico. En fait, ce qu'elle raconte, ça s'est passé à Veracruz, mais des événements similaires se sont produits aussi dans d'autres villes, donc ça parle au public. Elle n'a pas encore présenté à Veracruz, parce qu'elle craint un peu la réaction. Peut-être qu'il ne lui arrivera rien si elle le présente, mais elle se pose la question, mais pourquoi il lui est arrivé cela à Nadia?
Ce qu'elle ressent quand elle présente la pièce ici, en dehors du pays, à des gens qui découvrent l'histoire. Et voilà, si, parce qu'on ressent la douleur sur scène, au-delà de toute la partie jouée, mais on ressent la réalité, en fait, et ce qu'il y a au profond d'elle-même. Et donc, ce qu'elle ressent quand elle est ici, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est aussi une fierté de pouvoir parler de la réalité de son pays et de nous montrer bah, la réalité finalement.
Después de que estrené la obra, decidí
En fait, après l'avoir présentée 6 ou 7 fois à l'extérieur du pays, elle a eu l'impression qu'elle elle a décidé de cesser de la présenter à l'extérieur parce qu'elle avait l'impression de se trahir un peu elle-même. Donc après, elle a commencé à la présenter au Mexique, mais pas trop. Elle avait besoin de prendre ses marques, en fait. Et puis ensuite, elle a continué de façon assez naturelle au sud de Mexico avec con el hermano de Vera, avec là où se trouvait le frère de Vera.
Il a vu aussi sa maman.
En fait, la maman de Vera a vu la pièce et elle est ensuite allée la voir et elle n'a pas fait de scandale, de grand mouvement d'émotion. Elle lui a dit qu'elle parlait très bien. Elle dit qu'elle pense beaucoup à ses grands-parents parce qu'elle se dit que ses grands-parents n'auraient jamais imaginé qu'il pouvait se passer ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, merci Alice pour ces propos recueillis, ces traductions. On va remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué à ton reportage.
Exactement. Pour rebondir là-dessus et sur des propos, sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que le festival aborde des thématiques importantes. Mm-hmm. Donc il y a de la géopolitique. Voilà. Quelles autres thématiques, par exemple, aborde le festival ?
Beaucoup de problématiques de société. Pour éclairer un peu ce qu'on vient d'entendre quand même. Donc, ce qu'on a entendu, c'est le débat après le spectacle et donc les interventions qui a eu de la part du public et les réactions. À ce spectacle qui travaille sur, enfin, dont le sujet est l'assassinat de 27 journalistes en 2015, dont une personne qui s'appelait Nadia, donc qui était une activiste culturelle. Et la compagnie, et en l'occurrence Louisa Pardo, donc est sur scène et parle de cette question de la liberté de création et de la liberté d'expression dans son pays au Mexique, et en particulier à Veracruz, qui a connu vraiment des difficultés de censure à partir de 2015. Donc les autres sujets, il y en a beaucoup. Donc, par exemple, il y a la question de la femme qui est très récurrent pendant le festival, et mais aussi la question du genre, la question de l'écologie. Donc, il y aura des spectacles qui traitent de la question de l'écologie. Ce soir, à la Maison Folie d'Oisem, en même temps que Veracruz à Massenet, donc il y aura un spectacle de la Ribotte qui a été créé avec une compagnie de danseurs professionnels handicapés. Donc ça pose la question de handicap. Et dans ce spectacle-là, les interprètes parlent de leur sexualité, mais vraiment de manière très ouverte et très spontanée. Et c'est très fort parce qu'évidemment, la question de la sexualité chez les personnes qui ont un handicap est parfois tabou. Et donc voilà, en fait, c'est un festival où il n'y a pas de tabou et on peut parler de tous les sujets d'actualité ou des sujets sociétaux divers. Et ça, c'est vraiment important parce que ça donne à réfléchir d'une part, et puis même si aussi il y a des spectacles très drôles et on s'amuse, hein, c'est pas du tout sérieux.
Ça emmène à la réflexion. Ouais, c'est ce que je pensais hier quand j'ai regardé le spectacle du coup, parce que moi-même qui suis en parcours journalisme, ça touche énormément quand on voit cette liberté d'expression qui est pas. Qui n'est pas à jour partout dans le monde, on se demande...
Même en France. Hein,
même en France, pas à la même échelle ça inquiète.
Mais absolument. Oui, c'est ce que je voulais vous poser comme question, parce que la liberté justement d'expression est beaucoup bafouée un peu en Occident, partout dans le monde. Enfin, je pense que c'est un climat actuel, en fait. Et à l'échelle locale du Nord-Pas-de-Calais, enfin, quand ça se passe...
Haute-France.
Comment ça se passe, ce financement? Parce que c'est un festival qui dure du 5 au 28 juin, quand même. Mm-hmm. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, de préparation. Et comment vous trouvez tous les fonds nécessaires? je découvre un peu la plaquette au fur et à mesure.
Ah, c'est une bagarre de tous les jours.
Ça, je veux bien le croire.
Donc, il faut convaincre, élu par élu. Et puis, à un moment, le nombre de spectateurs dans les salles, la reconnaissance à la fois de la presse, des professionnels, du public, du festival, fait qu'on devient incontournable. Et donc, voilà.
Il y a le travail, la permanence sur l'année aussi.
C'était un festival qui durait 5 jours. Au tout début, j'ai vu.
Tout à fait, absolument.
Donc, vous êtes arrivé à vous étendre jusqu'à 3 semaines. C'est un travail énorme.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un travail qu'il faut maintenir tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas gagné. Donc, jamais.
Tout à fait.
Et donc, voilà, ça demande une vigilance de tous les temps et tous les jours.
Et le rapport avec l'île 3000, est-ce qu'il y en a un ou...
Mais là, il y avait le Mexique.
Oui, c'est pour ça que c'était bien la question.
Tout à fait. Bon, donc en fait, dans une partie de la programmation de Latitude de cette année, se fait dans le cadre de El Dorado, ce qui nous permet en fait d'avoir... Là, on est à un peu plus de 3 semaines, on est presque à 1 mois.
D'accord, c'est
et voilà, ce qui nous permet d'être un peu plus long que les années précédentes, de quelques jours. Hein. Depuis maintenant quelques années, on est plutôt à 21 jours. Et donc, cette année, on est à 24. Donc, voilà.
Peut résumer ça comme étant indépendant, en fait. C'est juste, dans le cadre de l'île 3000, vous avez pu prolonger et rajouter un programme un peu plus tourné vers le Mexique.
Tout à fait. Et pas seulement sur le Mexique, mais plutôt sur les nouveaux territoires. Mmh. Parce que moi, j'ai voulu vraiment travailler sur la question de l'Eldorado en me disant, mais c'est quoi les nouveaux territoires? Parce que pour moi, aujourd'hui, l'Eldorado, c'est presque suranné. Et donc je pense qu'on est plus sur des questions de nouveaux territoires et pas seulement des territoires géographiques. J'avais vraiment envie de m'intéresser à des territoires très variés, comme les nouvelles technologies. Pour moi, c'est un nouveau territoire. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi l'Eldorado aujourd'hui?
C'est un peu utopiste, même comme terme. Pour moi, ça me fait penser à des jeux, des histoires.
Pour moi, on m'a demandé de définir plusieurs fois ce que c'est aujourd'hui l'Eldorado. Et moi, je dirais, c'est les pays où justement, si moi je devais chercher un Eldorado aujourd'hui, c'est les pays où il y a une vraie démocratie et une vraie liberté d'expression. Et c'est ça aujourd'hui, l'or, parce que l'Eldorado, c'est quand les chercheurs d'or et les nouveaux territoires, en particulier dans l'Ouest et au Mexique, justement. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est essayer de trouver un pays où il y a un trésor qui persiste, qui est présent. Et pour moi, le trésor le plus important aujourd'hui dans la société, c'est celui de la démocratie, de la liberté de création, de la liberté de dire ce qu'on pense.
Mais c'est hyper important tout ce que vous dites, mais c'est marrant parce que en sciences politiques, nous, on a tendance à dire que la démocratie, justement, c'est un peu un retour en arrière, parce que on va mettre plutôt en avant la République. Mmh. Ça, c'est vraiment des questions de penseurs. C'est pas moi qui le dis.
Bien sûr,
je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Mmh. Et on va parler de la République, donc les institutions et la participation active des citoyens. Et la démocratie, c'est un léger retour en arrière, en fait, parce que il y a besoin d'une figure importante pour représenter cette démocratie.
Je crois qu'il y a plusieurs formes de démocratie.
Tout à fait. Il y en a un débat philosophique.
Là aussi géopolitique, parce qu'il y a des pays, en particulier les pays du Nord, qui la démocratie est beaucoup plus. Je cherche un mot parce que le mot important n'est pas... Mais en tous les cas, beaucoup qui est plus proche de ce que vous appelez la République, justement. Oui. Donc voilà, c'est tout dépend de où on parle et de comment on regarde les choses, en fait.
Pourtant, je pense que c'est dans les pays du Nord où on oublie plus souvent quelque chose qui est très important. Le bonheur, notamment, je pense au BIB, c'est le bonheur intérieur brut qui a été créé au Bhoutan.
Tout à fait.
Et le Bhoutan, c'est un endroit qui est très protégé justement du tourisme et des gens qui viennent pour préserver ce bonheur.
Quoique le Bhoutan, il est érigé comme doctrine nationale, mais ce n'est pas forcément le premier pays dans son propre classement.
Oui, mais c'est ça qui est encore plus fort.
Voilà, un bel objectif en tout cas.
Oui, c'est un bel objectif.
Tout à fait.
Et toi qui es allé à Cuba, il me semble, non?
Oui.
Comment tu ressens un peu les choses au niveau de la liberté de création?
Justement, je pense que ce pays m'a beaucoup marqué et c'est le voyage où je peux dire où j'étais époustouflée, en fait. Parce que On parle de démocratie, de dictature, on parle de plein de choses, de répression, de la presse, des citoyens. Et j'avais pas du tout envie d'aller à Cuba, en fait. Enfin, j'avais envie d'aller en Amérique latine, mais c'était un projet avec deux amis. Et quand on m'a proposé Cuba, j'ai dit oui, c'est un pays avec une histoire très riche. Mais est-ce que j'ai envie d'aller là-bas? Parce que j'ai tellement entendu Cuba dans la guerre froide, j'avais une vision assez pessimiste, finalement. Et en fait, je me suis pris carrément une claque dans la figure, parce que quand je suis arrivée, j'ai vu des gens généreux, en soif d'ouverture sur le monde, avec une culture qui est très, très riche, pour, aussi bien pour la musique que pour l'art graphique. Et en fait, c'est des gens qui ont envie de discuter, et il n'y a pas de tabou, comme on pourrait dire. Moi, on m'a dit, parle pas de politique, mais c'est pas vrai. On était dans des casas particulares. Excusez-moi pour l'accent, j'ai toujours du mal avec l'espagnol, mais j'ai beaucoup parlé espagnol là-bas, c'était un réel plaisir. Et on a parlé politique, on a parlé démocratie, on a parlé journalisme, et on a essayé de comprendre, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais comprendre à Cuba. Il ne faut pas chercher à comprendre comment ce pays fonctionne. Et on parle beaucoup de marché noir, d'économie, parce que le peso cubano, il y a deux monnaies, en fait. Il y a le CUC et le peso cubano, il y a la monnaie locale et la monnaie touristique, on va dire, assez vulgairement. Et du coup, on va payer des sommes qui nous semblent, nous, dérisoires et qui, pour eux, représentent leur salaire moyen d'un mois. Et en fait, il y a une certaine honte et culpabilité à venir en tant que touriste, profiter de tout ça, et en même temps, on fait vivre le pays. Donc, c'est très, très paradoxal.
Je pense qu'on va refaire une émission sur Cuba.
Ah, mais avec grand plaisir.
Peut-être tu peux nous dire, est-ce qu'à Cuba, on fait la sieste?
Ah oui. À Cuba, on a le temps, en fait. Et c'est un
ça
temps...
fait partie de la culture même.
Ouais, et je pense que c'est un temps qu'on oublie de prendre et ça m'a.
Mais qu'on a pris le temps
et qu'il
de
faut prendre le temps.
Alors, à lui, c'est très important contemporaine. Grâce à l'attitude.
Et c'est ça. Et il faut prendre le temps. Et quand on me dit j'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de me reposer, je me dis c'est triste quand même. Et en France, on oublie de prendre le temps.
C'est vrai. On va se prendre 5 minutes de temps pour présenter la sieste, Alice.
Oui,
raconte-nous.
Je suis allée voir ça samedi, après-midi à 14h30. C'est une très bonne heure pour faire la sieste.
Ah, c'est bien, ouais.
Donc, je l'ai faite. Alors, je suis une grande insomniaque. Et pour moi, m'endormir, c'était impossible. Et pourtant, ils y sont arrivés. Donc, j'ai plongé avec eux, avec le public et avec les musiciens. C'est une troupe qui est dirigée par Seb Martel, c'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer qui est très atypique et donc vous allez voir ça et découvrir ça dans le reportage.
Très bien, on va écouter ça tout de suite.
Pas d'applaudissements entre les chansons. Nous quand même. Silencio de oro. Tout repos. Dormiendo. Relajando.
Seb Martel, Sébastien Martel. Je suis musicien comme beaucoup. Je suis guitariste comme tout le monde. Cycliste. Qu'est-ce que j'ai en plus? Une certaine nonchalance. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui diraient que ça tu l'as en moins parce que faut être au taquet, faut être efficace, faut être productif, faut être rentable. Non, moi c'est. Non, je cultive ma nonchalance en moins. Cultive mon moins.
Ok, et donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce concept de sieste musicale?
Ah oui, alors c'est un concept que j'ai emprunté. Enfin, c'est pas que je l'ai emprunté, c'est que c'est un événement sous cette forme, en tout cas, un événement qui était créé par Bastien Lallemand, célèbre chanteur. Magnifique, il sort un album ces jours-ci, avec qui je suis très très proche. Il y en a toute une petite bande autour de lui. Il y a des gens comme J.P. Nataf, Albin de la Simone, Maëva Lebert, une grande violoncelliste. Il y a toute une nébuleuse. Et nous, on a un petit noyau autour de lui. Et on se produit très souvent, partout, de plus en plus. On a joué beaucoup au Théâtre de la Loge à Paris à une époque. Ça va faire bientôt 10 ans que ces siestes existent, les siestes acoustiques de Bastien Lallemand. On joue sous la Maison de la Poésie et puis partout en province, Belgique, Suisse, Québec, New York, Londres, Tokyo, Tahiti, Nouvelle-Calédonie.
Partout.
Oui, oui.
Partout.
Non, mais c'est tout ce que je dis, c'est pas des blagues. Tout ça a existé, existe.
Et alors, pourquoi vous pensez que justement c'est un concept important, je sais pas, aujourd'hui?
Ouais, déjà, je trouve que en tant que nonchalant, je cultive cet art, l'art de la sieste, quoi. Je suis nonchalant, mais par exemple, je suis comme beaucoup de gens, un sommeil de merde. Je suis très souvent insomniaque, moitié, ouais. Et donc, les siestes sont vraiment un moyen, des micro-siestes, de s'en sortir, quoi. De pas craquer et de prendre le temps. En Asie, c'est des gens siestent dans n'importe quelle entreprise. Il y a la demi-heure pour. Et voilà, je trouve ça très beau de le faire en musique. C'est une autre manière de découvrir, d'appréhender la musique sans commentaires, sans blabla, sans applaudissements. Restitution acoustique naturelle. Les voix sont comme vous avez vu, c'est la voix naturelle. Il n'y a pas de filtre de sonorisation. Et ça, c'est pareil, c'est une qualité d'écoute hors pair. Et puis c'est très simple, c'est tellement simple à se mettre. On peut faire ça n'importe où, il faut juste un endroit calme et c'est parti. Voilà, on est plus dans des installations extravagantes.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, quand vous procurez ces sensations aux gens?
Alors, en tant que de l'intérieur ou de l'extérieur, nous, en tant que musiciens, c'est une expérience vraiment, vraiment épatante, puisqu'on est, dans un... On entend tout. On est nous aussi dans un silence, dans une attention très relevée, très concentrée. Généralement, voilà, le rituel se déroule comme ça. On se retrouve tous 2 heures avant. Il y a beaucoup de nouveaux venus qui arrivent avec leurs morceaux, leurs chansons, des auteurs qui viennent lire leurs bouquins, des extraits de leurs bouquins, des comédiens, de la musique par-dessus ou pas. Et donc on assemble tout ça pendant à peu près 2 heures avant, on répartit le temps équitablement entre tous, 2, 3, 4 morceaux chacun, ça fait des grandes roues comme ça, et ça fait des timbres de voix différents, des allures différentes, des tempos, des genres, des styles, des dynamiques différentes. On n'est pas tenu de faire des voilà, c'est pas de la musique de zen, de massage, new age, tout ça, rien à voir. Là, j'ai fait un morceau de rock'n'roll en plein vers la fin, un pur morceau de rock'n'roll à bas volume, ça peut vous bercer. Voilà, et c'est ça qui est drôle, quoi. Vous avez tout un paysage sonore qui défile, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec une grosse sono bruyante, avec les enchaînements, la technique, tout ça. Là, tout est très fluide. Et en même temps, concentration maximale de notre côté pour voilà, fluidifier, pour faire en sorte que tout glisse, tout s'enchaîne, puisqu'on entend tout. Et donc, en fait, on est assez. On est très sollicité pendant ces. Pendant cette heure et quart qu'est la sieste musicale.
Voilà, là, il est 17h03, hein, c'est-à-dire que la sieste est terminée normalement. On a quand même beaucoup apprécié cette séquence, Alice. Merci pour ces beaux sons.
De rien. Vous pouvez retrouver le reportage en entier sur Onde de Chine.
Ah ben oui, sur le site de Onde de Chine, quoi de neuf. Vous interrogez voilà. Google et dans quelques jours, ce sera à disposition.
Exactement, parce qu'on a entendu un petit extrait, mais il est un peu plus long.
Oui, et puis voilà. Tu nous avais aussi préparé d'autres choses qu'on pourra intégrer.
Les yeux, les étoiles de Vincent Thierryon, puis une musique, enfin la musique sans l'interview et sans le micro-trottoir de la sieste, parce que c'est super.
Oui, ça, on peut se la mettre en boucle tous les jours, les auditeurs pourront, il n'y a pas de souci.
Voilà, un quart d'heure de détente.
Alors peut-être qu'on peut demander à Maria Carla Melamini, qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui, de nous donner quelques petits conseils pour les jours, les semaines à venir.
Mm-hmm. Alors, Y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de tout dire aujourd'hui. Il y a trop de choses. Ce soir, il y a la Ribot avec cette compagnie de danse portugaise. Pardon. Et puis, évidemment, Alice Ripoll qui arrive avec 9 danseurs magnifiques du Brésil. Mmh. Et donc, qui vous donne une pêche d'enfer. Non. Ça, c'est à la Maison Folie d'Oisem le 18 juin. Ouais. Il ne faut pas rater ça. Et puis, il y a Paul Pi, un artiste que j'aime beaucoup, qui a 2 projets pendant le festival. Donc, le premier, c'est Alexandre, qui a lieu...
Très particulier.
Tout à fait, parce que Paul est transgenre et parle de cette période où il est en train de se transformer de femme en homme. Et donc, en s'appuyant sur tout un récit d'une tribu où il y a un chef de tribu qui fait une incantation et le seul mot qu'il a compris, c'est Alexandre. Donc, c'est Alexandre, le nom du spectacle. Maggie Marin, évidemment, cette magnifique Maggie qu'on connaît tous, donc avec Ligne de Crête qu'il ne faut absolument pas rater. Et ça, c'est le 19 et le 20 au Grand Sud. Très beau spectacle sur une société de consommation qui va exploser tellement elle consomme. Et puis aussi un très beau spectacle qui s'appelle Talos de Arkady Zaïdès, sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la surveillance des frontières et comment la communauté européenne a financé tout un dispositif pour contrôler les frontières, donc dispositif qui s'appelle Talos. Beaucoup de spectacles, de musique, évidemment, de concerts, avec Fishback, avec Godzilla Overstyle, avec Enkizi, beaucoup de femmes musiciennes. On a voulu vraiment donner beaucoup de place aux femmes musiciennes importantes. Et puis, le beau spectacle de Silke Wisman et Hannes Derir, Pleasant Island. Là aussi, c'est une situation dramatique dans une île en Australie. Donc, une île qui sert à parquer, et le mot n'est pas trop fort, tous les réfugiés qui arrivent sur le sol australien, qui sont parqués sur cette île. Et donc, ce qui est invraisemblable, puisque c'est une île dont on a retiré toute la richesse des sous-sols et qui est vraiment une ville morte, en fait. Et donc, le gouvernement australien n'a pas trouvé d'autre chose à faire de mieux que de parquer tous les réfugiés et exilés qui arrivent dans son pays.
Alors, on va rappeler, Marie-Carmela Mini, que le site web donne des indications très précises sur l'ensemble des spectacles, mais aussi, de l'après-spectacle, des petites rencontres qui sont toujours très riches. Et puis, peut-être, Alice, tu peux nous donner quelques éclairages sur ton angle pour la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine, on va parler, et j'ai hâte d'en parler, du spectacle Eve is a Seller de Cubra Academy. Oui. Donc voilà, elle va nous expliquer un peu le concept de sa représentation qui reste un peu abstraite pour le moment. J'ai hâte d'en savoir plus. Et voilà, je vous parlerai de plein de choses.
Merci beaucoup.
Ça sera au marché Sébastopol.
Au marché Sébastopol.
Samedi matin.
D'accord. À quelle heure tout le matin?
Toute la matinée. La durée du marché.
Marché d'Oisem.
De Sébastopol. Oui.
D'accord, Sébastopol, donc derrière le théâtre.
Absolument.
Tout à fait, à Lille. Merci d'être venue, Marie-Carmela Mini.
Merci à
Bonne
vous.
Continuation au festival et rendez-vous public. On se retrouve dans quelques instants pour une autre séquence de Quoi Neuf consacrée à la production du lycée Montebello de Lille.
Merci.
Radio Campus, partenaire historique des Latitudes Contemporaines, se mobilise pour la 17e édition du festival qui aura lieu du 5 au 28 juin 2019. Écoutez nos reportages, chroniques et interviews dans les émissions du mercredi à 16h30 et du samedi à 9h. Et retrouvez toute la programmation du festival sur le site latitudecontemporaine.com.